Bonsoir les amis. Alors, c'est moi qui ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour cette avant-dernière session du cours Biblos. Et puis j'espère que vous êtes bien connectés, que vous n'avez pas de problème avec l'informatique. Et puis j'ai le plaisir aussi ce soir d'accueillir Gilles. Bienvenue Gilles.
Merci beaucoup, Claude Michel.
Et puis c'est toi qui apporteras justement ce cours sur le peuple de Dieu. Alors, avant de te laisser la parole, je vais encore prier. Eh bien, mon Dieu, j'aimerais te louer. Te louer et t'adorer parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui a tout créé. Tu es un Dieu qui nous a placés et qui nous a donné autorité sur cette terre, sur la nature, sur toute ta création. Et tu l'as fait par amour pour nous. Je te loue aussi parce que malgré tout ce qu'on a désobéi, ce qu'on a éloigné de toi, tu nous as pas laissés dans ce mal-être, mais tu es venu nous sauver. Tu es venu en la personne de Jésus-Christ pour nous délivrer. Alors sois béni, sois adoré, mon Dieu. Et puis j'aimerais te remercier parce que ce soir, on peut encore s'approcher de toi, on peut apprendre encore un peu plus de toi, de comment tu es. Et puis, on aimerait te remettre cette soirée. On aimerait te remettre ce cours sur le peuple de Dieu, justement. On aimerait te demander que tu diriges Gilles, que tu lui donnes ta paix et ouais, qu'il soit rempli de ton esprit pour nous conduire dans cette étude. Et puis, j'aimerais te remettre tous mes frères et sœurs qui sont ici en Suisse ou alors à l'étranger. Je te demande que tu bénisses chacun, que tu donnes ta paix aussi et qu'on puisse pleinement profiter de cette soirée avec toi. Amen.
Amen. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vous salue d'abord. Très heureux d'être avec vous pour cette avant-dernière session sur la doctrine du peuple de Dieu. Voilà le sujet que nous allons étudier cette semaine, c'est la doctrine du peuple de Dieu. Et déjà, franchement, moi, ça touche mon cœur parce que, voilà, on sait que l'humanité est divisée entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu, et de pouvoir étudier la doctrine du peuple de Dieu en sachant pertinemment bien que nous en faisons partie par la foi en Jésus-Christ, si évidemment nous avons fait ce pas de foi, quel privilège pour nous d'appartenir au peuple de Dieu. Alors, à nouveau, pour cette doctrine, nous allons regarder son développement dans le contexte de la révélation progressive de Dieu. Évidemment, c'est une très vaste étude qui ne peut pas être exhaustive à l'intérieur de deux périodes d'environ 45-50 minutes. Mais je crois que ce qui suit est suffisamment documenté par l'Écriture pour qu'on puisse chacun de nous se former vraiment une conviction profonde et solide à propos de la doctrine du peuple de Dieu. Les relations de Dieu avec les hommes sont le sujet, en fin de compte, que nous voulons étudier aujourd'hui. Et ça débute, bien entendu, avec la création du premier homme, Adam, suivi de celle de sa compagne, Ève, comme on le voit dans le récit de la Genèse. Au chapitre 1, verset 27, nous lisons: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, c'est ce qu'on voit dans Genèse 1, verset 27. Cette relation de Dieu avec eux, avec Adam et Ève, elle est immédiate, elle est directe, il n'y a pas d'intermédiaire. Dieu leur parle de vive voix et, de toute évidence, ils lui répondent de la même manière. C'est une relation qui est absolument libre de tout obstacle. C'est difficile pour nous de s'imaginer une telle relation parce que la conscience de l'humanité est limitée à Adam et Ève dans ce genre de relation-là. Bien entendu, il y aura encore des révélations personnelles et directes de Dieu dans l'histoire, mais le type de relation que pouvaient entretenir Adam et Ève au départ, on n'a pratiquement aucune idée de ce à quoi ça pouvait exactement ressembler. Mais nous avons l'espérance d'un jour d'avoir cette relation face à face avec Dieu, hein, dans un échange, dans des discussions qui soient sans obstacle. Pour ce qui concerne Adam et Ève, il y avait une seule restriction qui leur était imposée afin de leur permettre en réalité d'adorer et de servir Dieu d'une manière authentique et personnelle. C'est ce qu'on voit là, dans Genèse 2, les versets 16 et 17, là, de ne pas prendre du fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la seule restriction. Et pourquoi? Ben, parce que Dieu n'a pas créé un robot qui obéit avec une manette, avec, comment on dit, pas une manette, c'est chez nous qu'on dit ça ici, mais enfin, vous comprenez de quoi je parle, avec une espèce de contrôle à distance. Mais parce qu'il voulait cette relation authentique, sincère, vraie, personnelle, je dirais même engagée, tu vois, qui vient du cœur. Et c'est pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme avec ce libre arbitre de pouvoir venir devant lui, de le servir et de l'adorer dans des termes vraiment personnels et authentiques. Alors voilà pourquoi il y a cette unique restriction au départ. Mais nous connaissons la suite qui est malheureuse et qui est vraiment tragique du point de vue de l'homme, bien entendu, mais qui était aussi encadrée par les plans d'un Dieu qui est sage, un Dieu souverain, un Dieu qui est même rédempteur. Difficile pour nous de tout comprendre cela et toutes les implications du fait que Dieu ait permis à l'homme de prendre une mauvaise décision et de chuter avec toutes les conséquences graves qui s'ensuivent. Mais Dieu est au contrôle, Dieu est souverain, Dieu est bon, il est sage et dans tout ce qu'il fait, ben, on n'a pas à remettre en doute absolument rien de ses plans parce que notre Dieu sait ce qu'il fait. Il y a trois mots seulement qui révèlent les conséquences terribles de la désobéissance d'Adam qu'on trouve dans ce passage de Genèse 3, verset 10. Où es-tu? Les relations de Dieu avec les hommes étaient maintenant brisées et elles ne seraient pas restaurées qu'au moyen d'un immense sacrifice, et nous le connaissons, celui du Fils de Dieu à venir plus tard. Mais quels trois mots lourds d'impact, de conséquences immenses. Où es-tu? Bien entendu, Dieu est un Dieu tout-puissant, souverain et omniscient et omniprésent. Et puis, il ne cherche pas Adam et Ève dans le sens qu'il a perdu leur trace. Ces mots-là expriment dans des mots humains toutes les conséquences d'une relation brisée maintenant. Et donc, cette relation-là devra être restaurée par le moyen que Dieu lui-même va établir, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire le sacrifice qui viendra plus tard, du point de vue du récit de la Genèse, bien entendu, lorsque Christ viendra sur terre comme homme. Et après la chute, toute l'histoire de l'humanité se divise réellement en deux camps. Ceux qui seront amenés à connaître Dieu et par la foi, et ceux qui vont rejeter Dieu dans l'incrédulité. Donc, on pourrait dire que les premiers sont ceux qui seront sauvés par grâce, et les seconds sont ceux qui, malheureusement, seront perdus dans leur propre péché, dans leur propre désobéissance et incrédulité. L'homme, dans cet état de péché, vous savez, il est appelé pécheur dans les Écritures. Et fondamentalement, un pécheur, c'est une personne qui n'obéit pas à Dieu et à sa volonté, et c'est quelqu'un qui fait le mal. Voilà comment on peut décrire tout simplement un pécheur, quelqu'un qui fait le mal, qui n'obéit pas à la volonté de Dieu. Il est aussi appelé dans l'Écriture, ce même homme pécheur, un impie. C'est un terme, là, on monte un peu en degré ou en intensité, si je peux dire, par rapport peut-être même à pécheur, dans le sens de ses relations avec Dieu et pour exprimer à quel point elles sont brisées maintenant. Un impie est une personne qui manque de révérence, qui manque de respect, d'un profond respect envers Dieu. On voit cela dans 1 Pierre 4, verset 18, par exemple. Donc, les versets que je mentionne, vous n'avez pas besoin maintenant de tourner pour essayer de les lire. Ça va aller assez rapidement quand même. Il y a beaucoup de choses à exposer. Soyez pas inquiets. Tous les versets sont là dans vos notes de cours et vous pourrez vous y référer par la suite. Non seulement l'homme est décrit comme un pécheur dès la chute, un impie, mais encore même un ennemi de Dieu, c'est-à-dire une personne qui est fondamentalement hostile à Dieu, animée par la haine même de Dieu. Et on voit dans un texte de l'Épître de Paul aux Romains, que je vais me permettre de lire maintenant, on voit ça là, réuni ensemble, ce qui est assez impressionnant. Donc, je tourne dans ma propre Bible, là, dans Romains 5, je vais utiliser la version seconde, nouvelle édition de Genève pour ce texte-là. Donc, ce sont les versets 6 à 10, Romains 5, versets 6 à 10, et ça dit ceci, je lis. Car lorsque nous étions encore sans force, encore une autre manière de décrire le pécheur, pas de force morale ni de force spirituelle, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. On voit tous ces termes utilisés, sans force, pécheur, impie, ennemi. Wow, c'est impressionnant ce que la Bible dit de ce que nous sommes en réalité. C'est assez épouvantable quand on y pense. Alors, à la lumière de ces vérités-là, j'ai un petit peu de difficulté avec mon PowerPoint, je m'excuse. Donc, à la lumière de ces vérités-là, ce que l'Écriture nous dit au sujet de l'homme et son état de péché suite à la chute, comment est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'un jour il y ait un groupe de tels hommes, là, des pécheurs, des impies, des ennemis, qui soient appelés le peuple de Dieu? Ça, c'est surprenant. Déjà, là, je pense que si on a vraiment l'humilité qui caractérise l'homme tel qu'il doit se présenter devant Dieu, l'humilité et la repentance, on va accepter que normalement, il ne devrait pas y avoir un peuple de Dieu formé avec de tels hommes. Et ça ne devrait même pas exister, un peuple de Dieu avec de tels hommes. Et pourtant, c'est ce que Dieu a voulu faire dans sa grâce et son amour. Il a voulu se former un peuple avec de tels hommes. On en faisait tous partie, hein? Et la volonté de Dieu de se former un peuple qui lui appartienne se voit déjà dans le récit de la Genèse, quand Dieu va revêtir Adam et Ève de peau d'animaux ou d'un animal qui a été sacrifié pour couvrir la honte de leur nudité. Et ça, c'est une volonté que Dieu avait confirmée déjà dans la promesse de la rédemption qu'on trouve dans Genèse 3, les versets 15 et 21, où on voit très clairement que Dieu promet déjà dans ces versets-là une ligne rédemptrice. Donc, autrement dit, il va y avoir dans la postérité, pardon, humaine, quelqu'un un jour qui va racheter l'homme de son péché, de telle sorte que Dieu puisse se former un peuple. Et donc, le peuple qui va se former avant la venue de ce rédempteur, ben, c'est comme un peuple qui est formé à crédit, si je peux dire, qui est sauvé, pardonné, racheté à crédit jusqu'à ce que le Rédempteur, Jésus, bien entendu, vienne. Et par la suite, ben, le peuple qui sera formé sur la foi en Jésus sera racheté sur la base de ce même sacrifice. Donc, on voit qu'au cœur de l'histoire humaine, il doit y avoir un Rédempteur. C'était déjà là, c'était évident au départ, avec la chute de l'homme, avec sa nouvelle condition devant Dieu, que franchement, si Dieu n'intervient pas lui-même, ben c'est fichu, quoi. Il n'y aura jamais de peuple de Dieu. C'est évident. Mais parce que Dieu est si bon, si grand, si miséricordieux, ben, il avait déjà établi le moyen de racheter l'homme pour se former un peuple. Donc, dans l'histoire humaine, par la suite, on parle depuis Adam jusqu'à Théra, le père d'Abraham, on trouve dans les Écritures des hommes qui vont invoquer le nom de l'Éternel. Et c'est ce qu'on voit dans ce beau verset de Genèse 4, 26. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Moi, je vous pose une question. Que signifie le verbe invoquer ici dans ce passage? Eh bien, permettez-moi de saisir l'occasion pour vous montrer l'utilité du nouveau dictionnaire biblique que nous avons édité à Publication chrétienne et qui est maintenant disponible sur le marché. Disons que vous lisez ce verset et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça signifie ou qu'est-ce que ça implique d'invoquer l'Éternel? Vous prenez le dictionnaire que nous avons édité, qui s'appelle le Dictionnaire des mots bibliques. Vous voyez la couverture là. Et puis, vous cherchez invoquer, et là, on va vous référer à des articles qui incorporent donc les différents mots hébreux, araméens et grecs qui nous parlent d'invoquer. Et quand on regarde ce que dit ce dictionnaire, tout le premier verbe, en fait, la première entrée, c'est le verbe hébreu kara. Donc, on voit comment il se prononce. On peut le lire nous-mêmes. Pour les hébraïstes, eh bien, ils seront contents de voir le verbe dans l'alphabet original, kara. Et à côté, on a 17-21 qui correspond, pardon, 61-11-21 ou 71-21 qui correspond au code Strong. Et donc, qui peut vous allez aussi dans le dictionnaire ou lexique Strong, ça vous permet d'avoir accès à plus de ressources interconnectées ensemble, ce qui est aussi une force de ce dictionnaire-là. Et on lit ceci sous invoquer. Donc, je vais détourner mes yeux un peu pour lire avec vous le texte. Ce verbe fréquent dans l'Ancien Testament comporte plusieurs sens. Appeler, donner le nom, crier, invoquer, inviter, etc. Il est utilisé environ 730 fois. Et là, on vous réfère à deux autres verbes que vous pouvez aller voir qui ont des liens connexes. Donc, appeler, proclamer. Le sens d'invoquer apparaît dans deux contextes particuliers en lien avec Dieu, soit celui de l'adorer ou de faire appel à lui pour être secouru dans la détresse. Très intéressant. Alors, quand on lit dans Genèse 4, verset 26, c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et le nom de l'Éternel signifie l'Éternel lui-même dans tout ce qu'il est, dans tout ce que sa personne représente et ses œuvres aussi. Eh bien, on continue la lecture de l'entrée lexicale du dictionnaire qui dit, en premier lieu, Kara est pratiquement synonyme d'adorer dans l'Ancien Testament. Il apparaît ainsi dans les expressions invoquer Dieu ou invoquer son nom. Donc, notre verset entre dans ce cadre. C'est un appel à Dieu de porter attention à l'adoration des hommes et d'accepter leur offrande. Et cela est particulièrement vrai à l'époque des patriarches. Et vous pouvez voir à la toute fin, dans la lignée de 7, le texte de Genèse 4, 26. Donc, vous pouvez comprendre que le sens d'invoquer ici, de par son utilisation dans ce champ sémantique-là ou dans ce domaine de sens-là, c'est bien celui d'adorer. Donc, ça signifie que des hommes ont adoré Yahweh ou ont adoré l'Éternel. Donc, je voulais utiliser l'opportunité pour vous montrer l'utilité de ce dictionnaire. Et si vous y avez accès, ben, c'est un bon outil d'étude biblique par la suite. Et ça nous aide à comprendre ce qui s'est passé au début de l'histoire des hommes, et en particulier dans cette période patriarcale. Il y avait véritablement des adorateurs de Yahweh dans l'histoire des hommes entre Adam, disons, et Terah, qui est le père d'Abraham. Et durant cette période-là, on voit que l'Écriture met l'accent sur Énoch et Noé, qui sont présentés dans deux textes de la Genèse 5 comme étant des hommes qui ont marché avec Dieu. Genèse 5, 24 pour Énoch et Genèse 6, 9 pour Noé. Donc, ils ont marché tous les deux avec Dieu. Et là, marcher a le sens d'entretenir une relation avec lui. Marcher a le sens d'une manière de vivre. D'ailleurs, je pense qu'on l'utilise encore comme ça dans notre langage, dans plusieurs de nos cultures différentes. On parle du verbe marcher comme d'un synonyme pour la manière de se conduire et de vivre. Et c'est exactement le sens qu'on voit pour Enoch et Noé. Ils marchaient avec Dieu dans le sens qu'ils entretenaient une relation avec lui, ce qui impactait ou avait une influence directe sur leur manière de vivre. Dans la suite de l'histoire de l'humanité, eh bien, le déluge a détruit l'ensemble de l'humanité, mais on sait que Dieu a préservé une famille de 8 personnes, celle de Noé, par laquelle Dieu allait poursuivre par la suite son plan de rédemption. Je ne vais pas revenir sur le pourquoi du déluge. C'est évident que ce n'était pas pour enrayer le péché, parce que si c'était le cas, il aurait fallu que Noé aussi disparaisse, puisqu'il était un homme pécheur avec les 7 autres membres de sa famille. Mais Dieu, dans ses plans parfaits, il a détruit cette humanité corrompue par le diable avec le péché de Genèse 6, entre autres. Donc, voilà probablement la raison fondamentale du déluge. Mais qu'il est beau de lire ce que nous voyons dans Genèse 7, verset 1, par la suite, lorsque le texte dit « Entre dans l'arche », c'est Dieu qui s'adresse à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Évidemment qu'il n'y a aucune justice intrinsèque dans Noé lui-même, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas se déclarer juste et il ne peut pas être juste devant Dieu de par lui-même. Cette justice que Dieu voit en lui, c'est parce que Dieu lui a fait grâce, parce que Dieu lui a pardonné ses péchés, Dieu l'a purifié, l'a rendu juste en fait. La seule manière d'être juste aux yeux de Dieu, il faut que nous soyons justifiés par Dieu. Et de toute évidence, c'est ce que Noé a été justifié par grâce, par Dieu lui-même. Et Dieu a étendu cette justification de toute évidence aussi à sa famille, du moins dans une certaine mesure, même s'il y a des discussions à ce sujet-là. Maintenant, après le déluge, Dieu va manifester encore sa volonté de préserver l'homme, l'être humain en général, par une alliance éternelle et universelle qu'il va faire avec Noé. Donc, Dieu va faire l'alliance noachique ou l'alliance avec Noé, qui est une alliance pour préserver toute l'humanité, et Dieu va même utiliser ou désigner l'arc-en-ciel, si vous voulez, comme signe de sa fidélité à cette promesse de ne plus jamais détruire l'humanité de cette façon par le déluge d'eau. Donc, c'était universel là, comme jugement, et Dieu promet à l'homme de ne plus exercer un tel jugement universel. Il peut y avoir des déluges locaux, hein, d'abondance de pluie terrible qui détruit plusieurs personnes. Mais la promesse de Dieu est de ne plus jamais détruire l'humanité entière par un tel jugement. Par la suite, donc, des trois fils de Noé qui vont passer à travers le déluge et donc entrer dans la vie subséquente au déluge, eh bien, Sem va être identifié comme étant celui par qui il y aurait un jour une lignée d'hommes qui appartiendrait au Seigneur. On lit ceci dans Genèse 9, 26. Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Yahweh, ici, l'Éternel, est appelé le Dieu de Sem. Donc, c'est assez évident que Sem avait une relation avec l'Éternel, avec Yahweh. Mais après Sem, on perd la trace dans le récit de ceux qui appartiennent à Dieu jusqu'à ce qu'on arrive à la période des patriarches. Et là, il y a deux personnages qui sont présentés dans cette période-là comme étant des adorateurs de Yahweh. Donc, on parle bien entendu de Melchisédek et de Job. Deux personnages qui appartiennent à la période, à la période patriarcale primitive. Au tout début de cette période-là, on trouve donc Melchisédek et Job. Le premier, Melchisédek, il est présenté dans l'Écriture comme étant un sacrificateur du Dieu très haut, et le second, c'est-à-dire Job, il est présenté comme un homme qui craignait Dieu. Donc, c'est évident qu'ils avaient une relation avec Dieu, une relation personnelle, et ces deux hommes-là offraient des sacrifices à Dieu pour les autres dans un rôle d'intercession. Bon, concernant Melchisédek, c'est évident de par son titre de sacrificateur qu'il offrait des sacrifices. Et puis, concernant ben, Job, ben, on le voit dans le récit de sa vie, quoi, des événements marquants qui sont rapportés dans le livre qui porte son nom. Il offrait des sacrifices pour ses enfants, donc, au cas où ils auraient péché contre Yahweh. Donc, c'est évident que par la notion que Job possède et que Melchisédek, le titre qu'il possède, eh bien, ces deux hommes-là étaient des adorateurs de Yahweh et connaissaient Dieu lui-même. On ignore totalement dans l'Écriture comment ils ont appris cela, comment ils ont été, ben, pour Melchisédek, désignés sacrificateurs du Dieu Très-Haut, et comment Job a appris qu'il fallait offrir des sacrifices pour le péché, à Dieu. On ignore complètement cela, mais je pense que c'est plausible de simplement comprendre que c'est par une révélation de Dieu lui-même qu'ils ont appris cela. Maintenant, ce qui est hyper important de noter en lien avec toutes ces personnes-là qu'on a mentionnées, mais en particulier Melchisédek et Job, il est clair qu'en dehors de la ligne rédemptrice, c'est-à-dire la ligne de Sem, et qui va nous amener jusqu'à Abraham bientôt et le peuple d'Israël, et donc à Christ ultimement. Eh bien, en dehors de la lignée rédemptrice dans l'Écriture, il y a des hommes qui ont appartenu à Dieu, même s'ils ne formaient pas un peuple distinct comme Israël ou l'Église. Ce sont des hommes qui ont connu Yahweh, qui avaient une relation avec Yahweh, mais qui sont en dehors d'un peuple particulier, d'un peuple distinct. Bien entendu, Melchisédek et Job sont à la période du premier de la nation juive, Abraham, le père de la nation juive. Donc, Israël n'est pas encore une nation, mais en Abraham, c'est déjà un peuple choisi. Ça, c'est vrai. Melchisédek et Job sont complètement à l'écart de ça, sont en dehors de ça. Ils ne sont pas juifs, ils ne font pas partie de la lignée juive ou israélite, et pourtant, ils connaissent très, très bien Yahweh. Ça, c'est quelque chose que je savais derrière dans mon esprit, mais j'ai pleinement réalisé en préparant ce cours. Et d'ailleurs, je vous partage beaucoup de découvertes en cours de route que j'ai faites en préparant cette partie de cours Biblos cette année. Le personnage principal de l'époque où on se trouve, l'époque patriarcale, c'est bien entendu Abraham. Et quand Yahweh se révèle à lui, vous réalisez que Abraham, ce n'est pas un adorateur de Yahweh, c'est un adorateur d'idole. C'est un idole, Abraham, quand Dieu se révèle à lui. Ça, c'est la preuve que Dieu est un Dieu de grâce et qu'il sauve des pécheurs. Il ne sauve pas des justes, non. Il ne sauve pas des gens qui sont bien avec lui. Qui le connaissent de par leur naissance, ça n'existe pas. À cause du péché, on vient, ouais, à la naissance pécheur, ennemi de Dieu, séparé de lui. Donc, Abraham a suivi tout simplement le cours de sa culture, de son peuple, de son culte idolâtre, et c'est ce que le livre de Josué nous apprend au chapitre 24, et je lis rapidement ce texte. Josué dit à tout le peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nakhor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, de l'Euphrate, et ils servaient dans le sens d'adorer d'autres dieux, avec un petit dé, bien entendu, au pluriel. Donc, Abraham était un idolâtre et Dieu s'est révélé à lui pour l'appeler et Abraham a obéi. Il a quitté sa patrie, il s'en est allé vers une terre complètement inconnue. Et en cours de route, pendant ce voyage, alors qu'il se trouve à Charan, au nord de la Mésopotamie, Yahweh réitère à nouveau son message et lui dit ceci: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dans Genèse 12, versets 1 à 3. Ça, c'était la deuxième fois que Dieu appelait Abraham à tout quitter. Et en cours de route, il l'a rappelé encore alors qu'il était à Charan. Il a insisté. John MacArthur insère une note très intéressante dans sa Bible d'études à ce texte-là qui dit ceci. Ce passage contient la promesse dont l'accomplissement attendu ou réalisé, ça veut simplement dire que tout ce que Dieu promet à Abraham n'est pas encore entièrement réalisé. Certaines choses le sont et d'autres pas. Eh bien, tout ça constitue le fil rouge de toute l'Écriture jusqu'à Apocalypse 20. Remarquable. Parce que le fil rouge nous parle de l'histoire de la rédemption humaine. C'est Dieu qui rachète l'homme, qui se forme un peuple. Eh bien, c'est de là, de cette promesse-là en particulier, que on trouve là dans l'histoire humaine un fil conducteur. Pourquoi on dirait ici, plutôt que Genèse 3,15? Genèse 3,15, c'est le proto-évangile, la première annonce de l'évangile, première annonce de la rédemption. Et c'est vrai, c'est déjà ancré là, dans le jardin, là, avec Adam et Ève, une promesse de rédemption tout de suite après la chute. Mais on a vu qu'on perd le fil un peu, la trace, entre Sem et puis Abraham. Mais là, depuis Abraham, avec l'alliance abrahamique, paf, ça devient très clair. Parce qu'en réalité, c'est le fil conducteur qui va amener le peuple rédempteur dans un sens, parce que Jésus est juif et donc il doit venir de la nation juive. Et c'est pourquoi MacArthur parle vraiment que de ce moment-là, eh bien, on a le fil rouge de toute l'histoire de la rédemption dans l'Écriture jusqu'à Apocalypse 20, là où il y a le jugement dernier, etc. Et ensuite, on entre dans l'éternité. Genèse 12 est donc le point de départ de la formation d'un peuple distinct de tous les autres peuples par lequel Dieu allait bénir toutes les nations de la terre. On parle bien entendu du peuple d'Israël, cette grande nation, comme on le voit ici dans l'alliance abrahamique, cette grande nation par laquelle, pardon, je suis allé un petit peu trop vite, là, par laquelle Dieu allait bénir tous les peuples de la terre parce que le Rédempteur allait provenir de ce peuple-là. Donc, on parle du peuple d'Israël et au sujet du peuple d'Israël, l'Écriture nous dit quelque chose d'assez impressionnant dans le livre du Deutéronome. J'ai mis tout le texte à l'écran parce que ça vaut le coup de le lire ensemble. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Là, c'est la concrétisation de l'alliance abrahamique. C'est plus qu'avec une personne, mais avec un peuple que Dieu s'engage à accomplir ses plans de rédemption pour l'humanité. Mais regardez ce qui est dit au sujet d'Israël. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, Abraham, Isaac, Jacob, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte, et bien entendu, on parle ici de l'Exode. C'est remarquable ce que ce texte-là confirme, que Israël est le peuple élu, choisi de Dieu par pure grâce, dans sa souveraineté pour faire accomplir ses plans de rédemption. Et voilà pourquoi il a même sorti le peuple d'Égypte. Donc, Israël est la ligne principale de l'histoire de la rédemption, par laquelle allait venir le Rédempteur et sauver beaucoup d'hommes. Alors, Israël, c'est vraiment le peuple de Dieu pour tout le reste de l'Ancien Testament. C'est lui le peuple de Dieu, Israël, dans l'Ancien Testament. Mais, bien qu'Israël soit le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup, mais beaucoup de gens qui proviennent d'autres nations et qui vont se greffer au peuple de l'Alliance à travers son histoire et même devenir parfois des adorateurs eux-mêmes de Yahweh. On a parlé de Melchisédek et de Job qui connaissaient Dieu. Eh bien, il faut aussi mentionner tous ces gens-là qui ont accompagné le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Vous réalisez ça que Israël, c'est pas que le peuple juif qui est sorti d'Égypte, non. Il y a beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui sont sortis avec eux. Regardez ce texte d'Exode 12, versets 37 et 38. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils sont sortis avec eux. On peut difficilement dire dans quelle mesure ces gens-là étaient vraiment des croyants ou des adorateurs de Yahweh, si vous me permettez. Ça, on peut difficilement le dire. Mais par contre, ils ont préféré s'identifier à Yahweh, le Dieu d'Israël, plutôt qu'au Pharaon et à tous ses propres dieux. C'est vrai que ces gens-là vont devenir une pierre d'achoppement plus tard. Enfin, une partie de ces gens-là. On le voit dans Nombre 11, verset 4, quand il y a un ramassis de gens qui seront une occasion de chute de par leur convoitise. Et ça va entraîner Israël, malheureusement, aussi dans la même convoitise. Quoique Israël n'avait pas besoin de personne pour faire ça. Mais là, ils sont quand même sous l'influence d'un. Je pense que le texte dit un ramassis de personnes. C'était assez drôle comment c'était dit. Mais quoi qu'il en soit, il y a des gens là-dedans, c'est évident, là. Écoute, ils prennent position avec Israël, un peuple chassé du pays, là, de leur propre pays, là. Et probablement qu'il y avait des étrangers aussi, qui étaient peut-être même en esclavage en Égypte, qui vont sortir avec Israël. Il y a des détails qui nous échappent, mais quoi qu'il en soit, ces gens-là sont sortis et ont préféré s'identifier à Yahweh. Et vous réalisez que dans l'alliance de la loi mosaïque, le Seigneur a prévu des instructions pour eux dans l'alliance que Dieu allait donner par Moïse à son peuple Israël. Il y a plusieurs textes qui disent ça, entre autres pour la célébration de la fête de Pâques dans Nombre 15, dans les célébrations des fêtes juives, dans Lévitique 24, par exemple. Eh bien, c'est précisé, voici quelle sera la règle qui sera valable autant pour Israël que pour l'étranger qui séjournera parmi eux, ou les étrangers qui seront avec eux. Dieu avait prévu dans l'alliance de la loi mosaïque une alliance pour Israël, les mêmes lois, les mêmes règles pour adorer et s'approcher d'Yahweh avec les étrangers, en fait ceux qui n'étaient pas israélites. C'est assez remarquable, ça. Je pense que on néglige ce genre de détails-là souvent, moi le premier, qui ne remarque même pas que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'autres gens qu'Israël qui appartiennent à Dieu et qui font partie de son peuple. Israël, c'est le peuple d'alliance. C'est le peuple choisi par lequel la ligne de rédemption doit arriver. Mais Dieu sauve des gens de beaucoup d'autres nations. Il n'y a aucun doute là-dessus. On peut d'ailleurs mentionner, juste pour y aller toujours selon l'ordre de la révélation progressive de Dieu, avec le beau-père de Moïse. Le beau-père de Moïse, qui s'appelle Réuel, c'est son vrai nom, OK? Réuel, qui, selon Exode 2, 18, signifie ami de Dieu. Intéressant, hein? Le beau-père de Moïse, il se surnomme Réuel, ami de Dieu. Il est aussi surnommé Jethro, mais ça, c'est probablement un titre qui signifie excellence et qui était un sacrificateur dans le pays de Madian et parmi le peuple de Madian. Et cette identification de sacrificateur, ça indique probablement qu'il adorait Yahweh et pas les divinités madianites. Et on lit au sujet de Jethro dans Exode 18, vous voyez le verset, il dit ceci: Je connais dans ces circonstances que Yahweh est plus grand que tous les dieux. Et là, Moïse venait de lui raconter tout ce que Dieu avait fait. Et la plupart des versions françaises, je vais juste tasser quelque chose qui me gêne, là, un menu de. OK, voilà, un menu de Zoom. Il vient d'entendre ce rapport-là et puis il dit, je connais, mais dans les versions françaises, c'est souvent traduit par, je le reconnais maintenant, comme si là, il vient de découvrir qui est Yahweh. J'en doute fort, de par le fait qu'il est déjà un sacrificateur, ça indique probablement qu'il connaît déjà Yahweh. Mais cette phrase-là signifie probablement, je connais dans les circonstances que tu me racontes là que vraiment Yahweh, là, c'est le plus grand de tous les dieux. C'est comme si Jethro disait à Moïse, hey, tu me confirmes que le Dieu que j'aime et j'adore, là, il est vraiment grand, puis il n'y a pas un Dieu qui lui arrive à la cheville, comme on dit dans notre expression québécoise, c'est-à-dire il est incomparable, quoi. On ne peut pas comparer Yahweh à aucun autre Dieu. Donc, ça montre que ce Jethro-là connaissait Yahweh, mais pourquoi j'ai mis entre parenthèses Kénien? Parce que les Kéniens sont un autre peuple qui existait à l'époque des Israélites et Jethro en faisait partie. Jethro n'est pas un Israélite, il n'est pas un Juif, il est un Kénien et il est présenté comme tel très souvent dans le livre des Juges, entre autres, il est présenté comme étant un Kénien. Donc, c'est un peuple, les Kéniens, qu'on retrouve souvent auprès des Israélites, même jusqu'à l'époque monarchique. C'est-à-dire la période là, des rois dans le peuple, parmi le peuple d'Israël, même après la division du peuple. Vous rappelez-vous Jaël, la femme qui a délivré Israël de Sisera, le chef de l'armée de Jabin, c'était à l'époque de Déborah et de Barak, l'époque des juges. Eh bien, elle était l'épouse d'un Kénien elle-même. Et Déborah a prononcé une bénédiction. Déborah, la juge, là, elle a prononcé une bénédiction sur cette femme-là, Jaël, une Kénienne, dans le cantique de victoire qu'elle va écrire dans Juges 5, verset 24. Wow! C'est intéressant, là, on voit que des Kéniens qui non seulement ont des relations avec Israël, mais connaissent Yahweh et ont même un impact sur l'issue de combats graves et sérieux entre Israël et des puissances étrangères assez remarquables. Je n'avais pas vraiment remarqué tout ça. Bon, il est temps de lire Genèse 15, versets 18 à 21. Je vais prendre une pause bientôt, là, dans quelques minutes. Mais lisons d'abord ce texte-là. Il va apparaître à l'écran. Genèse 15, versets 18 à 21, des versets qui font partie de l'alliance abrahamique. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, donc au nord d'Israël, ce qui est en Syrie aujourd'hui. Le pays, regardez ça, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmonéens, des Héthiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guergasiens et des Jébusiens. Dieu dit à Abraham qu'il va donner le pays de Canaan habité par ces nations-là, que Dieu va chasser devant le peuple, eh bien, il va donner ce pays-là à Israël. Tous ces peuples-là sont appelés à être chassés du pays de Canaan en raison de leur péché horrible et immense. Et pourtant, plusieurs parmi ces nations-là, appelées à être chassées, vont se joindre au peuple d'Israël et vont devenir des adorateurs de Yahweh. Et ça m'impressionne incroyable. On vient de parler des Kéniens. On vient de parler de Jéthro, qui est un Kénien. On vient de parler de Jaël, qui était l'épouse d'un Kénien et qui a un impact remarquable dans la délivrance d'Israël du pouvoir de Jabin et de Sisera. Eh bien, remarquez que c'est le premier peuple mentionné qui est appelé à disparaître. Et Dieu sauve. Dieu sauve des gens d'autres nations parce que Dieu est un Dieu de grâce. Je vais faire une pause ici, là, parce que ça file. Et puis, voilà, peut-être qu'on peut répondre à des questions.
Merci beaucoup, Gilles, pour cette première partie d'exposé passionné, comme à ton habitude. Et puis, on a déjà plusieurs questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions au moyen du petit onglet qui se trouve au centre de votre écran Q&R et qui nous permet ainsi de les passer en revue. Alors, on a un frère d'Afrique qui nous pose une question qui est intéressante. De quelle semence de Satan parle-t-on dans Genèse 3, verset 15? Est-ce que cette semence sortira aussi d'Adam et Ève? Et il précise sa question. Certains enseignent ici, donc en Afrique, dans le pays où il est, que Caïn n'est pas enfant d'Adam, mais descendant d'une relation de Satan et d'Ève.
Ouais, non, ben en fait, la Bible, concernant cette dernière partie de la question, n'enseigne pas cela du tout. Donc, il faut inventer un tel récit. Mais je préfère qu'on s'en tienne à ce que la Bible dit clairement et positivement. Donc, ça ne fait pas partie de ça. Mais par contre, c'est vrai que la postérité dont Dieu parle dans le protoévangile, dans Genèse 3,15, qui est une postérité méchante, elle peut être autant humaine qu'angélique parce que autant chez les hommes pécheurs qui ont l'influence du mal maintenant ou du malin, si je peux dire, même dans leur cœur, c'est vrai, on trouve la même influence mauvaise, malheureusement, dans le monde angélique et spirituel, où une très grande partie des anges ont suivi Satan dans sa révolte. Donc, c'est évident qu'il y a un conflit entre les hommes qui, malgré leurs péchés, qui seront pardonnés, sauvés par grâce, donc deviennent la postérité de la femme dans le sens de la postérité de ceux qui appartiennent à Dieu, qui sont sauvés par le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il y a un conflit entre eux et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu d'une part et le monde spirituel mauvais. Donc, on peut certainement voir là deux branches dans cette postérité mauvaise de Genèse qu'on voit autant d'un point de vue humain qu'angélique ou spirituel.
Merci pour cette première réponse. Une deuxième question, comment comprendre et faire comprendre au peuple de Dieu que Melchisédek n'est pas Jésus, mais un homme qui a bien vécu?
Oui, tout simplement parce que dans le texte de la Genèse, il est présenté comme un personnage historique qui a des liens avec le contexte de son époque, parce qu'il était roi de Salem, donc roi de Jérusalem, c'est l'ancien nom pour Jérusalem, et donc il est présenté comme tel. Mais parce que l'Écriture ne donne pas de détails au sujet de sa généalogie, donc de sa mort, de sa naissance, parce que la Bible ne donne pas ces détails, mais il y a eu naissance, il y a eu mort, il avait une postérité, c'est évident, il y avait une descendance chez Melchisédek, mais parce que la Bible ne dit rien à ce sujet, reste silencieuse, ça permet plus tard à l'auteur de l'Épître aux Hébreux de faire une certaine relation typologique avec Jésus-Christ. Donc, Melchisédek est un type de Christ dans le sens de les choses qui ne sont pas dites à son sujet reflètent la réalité pour Christ. Christ n'a pas de généalogie, bien entendu, dans son humanité, oui, mais n'a pas de début, de fin, etc. Donc, c'est vraiment d'une manière typologique uniquement que Christ est rendu semblable à Melchisédek. Et d'ailleurs, David semble avoir bien compris cela, puisque entre les deux, entre la naissance de Jésus, qui est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et Melchisédek lui-même, qui lui est en 2000 avant Jésus-Christ, eh bien, en 1000 avant Jésus-Christ, le roi David écrit ce psaume 110 dans lequel il reconnaît qu'un jour il viendrait un autre sacrificateur comme Melchisédek dans la même lignée. Donc, le fait que ce soit une lignée ne peut pas faire de Jésus et Melchisédek une seule et même personne. Il faut que ce soit un ordre, une lignée. Donc, Christ est la lignée de Melchisédek. Ils sont seulement deux dans cette lignée-là, et c'est de là que Jésus tire son droit, si je peux dire, à la sacrificature, puisqu'il n'était pas de la tribu de Lévi.
Merci beaucoup, Gilles, pour cette réponse. Et puis maintenant, je vous propose de faire une pause. À tout bientôt.